Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les grandes voix qui, ce samedi, sont exceptionnellement trois. On en profite pour souhaiter une bonne année, mais aussi un excellent anniversaire à Catherine Ney. Bonjour et bonne année à vous trois. Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou.
Bonne année, Pierre de Villeneuve.
Hier, Emmanuel Macron a prononcé les derniers vœux de son quinquennat, un discours en trois temps. Le Covid, son bilan et une projection sur l'avenir en forme d'envolée lyrique parfois difficile à suivre. Je crois à une certaine idée de l'homme, je continuerai à vous servir, quelle que soit ma place et les circonstances. Et puis ce fameux « Nul ne saura déraciner mon cœur », emprunté à l'étrange défaite de l'historien résistant Marc Bloch. Les vœux d'Emmanuel Macron en pleine résurgence du Covid. Plus de 200 000 cas par jour, quelles conséquences pour le chef de l'État? Est-ce une forme d'atout dans son rôle de protecteur? Ou au contraire, c'est une épée de Damoclès, les grandes voix décryptent et analysent. Qu'en est-il des autres? Pécresse, Hidalgo, Jadot, Le Pen, Zemmour, tous ont défilé et dans une petite vidéo ont présenté leurs vœux. Enfin, c'était plus des spots de campagne à trois mois de la présidentielle. Où en sont les candidats dans leur programme, dans leurs idées? Dans la deuxième partie de l'émission, nous passerons en revue les forces en présence pour le premier tour. Vous avez le programme, place au premier débat des grandes voix 2022. Certains avaient misé sur le feu de cheminée, d'autres sur la bibliothèque. Raté, c'est côté jardin qu'Emmanuel Macron est apparu hier à 20h, fenêtre ouverte, comme une invitation à aller de l'avant, rien n'a été laissé au hasard. Un peu plus de 13 minutes de discours au total, et je le disais en introduction, trois parties distinctes, Covid, bilan, perspective, et des phrases ciblées comme « 2022 peut-être sera l'année de sortie de l'épidémie » ou encore « La France, malgré les épreuves, est plus forte aujourd'hui qu'il y a deux ans. Mais celle qu'on retiendra bien sûr, c'est celle-ci.
Pour ma part, quelle que soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir. Et de la France, notre patrie, nul ne saura déraciner mon cœur.
Phrase empruntée à Marc Bloch dans l'étrange défaite qu'il n'a pas citée, hein, vous l'aurez remarqué. Alors la question que j'ai envie de vous poser les grandes voix ce matin, c'est simple. Était-ce des vœux aux Français ou était-ce, comme disent certains détracteurs, un nouvel exercice d'autosatisfaction?
Ben, c'était les deux.
Gérard Carrérou. Oui. Généralement, on dit c'est les deux, mon capitaine.
C'était les deux, oui, bien sûr. C'était un président, c'était un candidat en pointillé à la présidence de la République. Et c'était les vœux aux Français. Il y avait donc à la fois le mélange de la tradition et du projet politique du chef de l'État sortant. Alors effectivement, moi, la chose qui m'a surpris le plus, c'est le rythme. C'était le galop. D'ailleurs, il a dit à un moment donné, oui, c'est une cavalcade. Effectivement, il y a des moments. Oui. Je m'en suis aperçu parce que moi, je prends toujours, depuis 40 ans, je prends des notes quand il y a un discours comme ça. J'avais donc, et je n'arrivais pas à suivre. Oui. Alors que d'habitude, Macron, depuis 3 ans, j'arrivais à suivre. Bon, donc voilà, je ferme la parenthèse de la cavalcade. Ben, je dirais qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Il a présenté, comme on dit dans l'édition, un bilan doré sur tranche. Un ouvrage doré sur tranche.
Mais est-ce que ce n'est pas le cas à chaque fois qu'un président sortant est peut-être candidat?
Ce n'est pas toujours le cas de faire un grand bilan. Et en fait, celui dont il s'est inspiré le plus, je ne veux pas être trop long parce que mes camarades ont beaucoup de choses à dire, mais celui dont il s'est inspiré le plus, c'est François Mitterrand en 1987. Oui. Puisque Mitterrand en 1987 était un peu dans cette situation d'un président élu qui allait se représenter, puisqu'il allait le dire quelques semaines plus tard. Et il avait donc fait un certain nombre de... Et il avait donné ce fameux ton, hein, les forces...
On se souvient... Forces de l'esprit.
Et là, on sent qu'il y a des phrases qui sont du Mitterrand. L'Europe unie, c'est comme un peu la France unie. Le dépassement par l'Europe, tout ça. Bon. Donc voilà, il y avait le bilan et il y avait manifestement... le levier de l'Europe, parce qu'il est président de l'Europe depuis ce matin et qu'il entend bien utiliser l'Europe comme un levier pour une réélection éventuelle.
Michel Cotta.
Je trouve que c'est un exercice classique. Mmh. Classique. Évidemment, on ne va pas dire mon bilan est mauvais.
Ah oui.
Bon, on ne va pas dire je me présente, parce que tous les présidents qui étaient dans les mêmes circonstances à quelques mois d'une élection ont gardé leur silence et ne se sont pas prononcés. Donc, au fond, c'était à la fois je suis optimiste. Mmh. Moi, c'est plutôt le mot d'optimisme qui, dans le climat actuel, m'a le plus étonné, parce que finalement, il a de la veine d'être optimiste. Hein. Mmh. Mais il y a aussi, surtout, ce qui m'a frappé, c'est la projection pour après. Pardon, j'ai une voix enrouée.
On va vous apporter ce qu'il faut.
Avec Omicron, c'est pas grave.
C'est la projection pour après, c'est-à-dire après 2022. Et au-delà, bon, ça c'est une déclaration implicite tout de même. Bon, et alors, puis le fond, la forme était peut-être en cavalcade, mais quand même excellente. Et puis j'ai retenu surtout effectivement l'enracinement de son cœur dans la France, comme vous dites.
Oui.
Et ça, vous citez Marc Bloch, mais moi j'ai plutôt pensé que c'était un clin d'œil quelque part aux souverainistes.
Oui.
C'est plutôt un clin d'œil, c'est du Barrès, quoi.
C'est vraiment une phrase empruntée à l'étrange défaite de Marc Bloch.
Voilà. Mais c'est une phrase aussi qui rappelle quand même, où que je sois, d'ailleurs, où que je sois, je ne vous quitterai pas,
les forces de l'esprit.
C'est vraiment.
Alors, les forces de l'esprit, c'était 1994, François Mitterrand.
C'est le dernier. Ce n'est pas le.
Non. Mais c'est normal, c'était au moment où il était extrêmement malade.
Tandis qu'en 88, il avait parlé.
Il savait qu'il ne se représentait pas.
En 88, il avait parlé 4 minutes.
Oui, Charles Villeneuve.
Non, mais ce sont des vœux de facture assez classiques. Bon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un président de la République, dans le rituel de tous les présidents de la République, qui se transforme tout d'un coup, si vous voulez, en shit, hein, c'est pas le temps de la choura, il vient pas là pour s'auto-flageller, comme le font les shit au moment de la choura, non. Moi, je l'ai trouvé assez combatif, très optimiste, et je ne suis pas sûr que les Français soient les perçus, notamment sur le plan européen, de la même manière que lui le voudrait, bien qu'il prenne, évidemment, la présidence de l'Europe. Parce que les Français... aujourd'hui, ne sont pas en demande d'Europe. Mmh. Je ne le crois pas. Mmh. La crise a remis aussi sur le devant la question de l'intérêt national et du patriotisme économique. Donc, ce n'est pas évident de dire qu'il faut encore plus d'intégration européenne. Et puis, de dire qu'on a les vaccins grâce à l'Europe. Non, je m'excuse, on a les vaccins grâce aux États-Unis.
Et à Trump.
Et à Trump qui a...
On les a achetés ensemble.
Qui les a payés.
Oui, vous voulez dire aussi, c'est qu'on les a achetés ensemble.
Oui, mais enfin, qui a décidé de contribuer à raison de 12 milliards de dollars la recherche pour obtenir, grâce aux laboratoires Pfizer et Moderna, qui sont deux laboratoires américains, bien que dirigés par des Français, d'ailleurs, par deux Français, par un centralien français pour Moderna et un chercheur français aussi en ce qui concerne Pfizer. Bon, cela étant, si vous voulez, il n'y a pas de surprise. Pour moi, la seule question qui se pose, la vraie question qui se pose, c'est combien de temps cette reprise de l'épidémie va durer, combien de temps elle va s'installer, si elle est brève et violente, comme l'estime un certain nombre de scientifiques. Et c'est vrai, ça a été vrai en Afsud, en Autriche, ça l'est, au Danemark et même en Angleterre où elle ralentit. On va se retrouver avec un paysage de campagne présidentielle très classique où va ressurgir les thèmes de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, sinon qu'il a complètement évité. Il n'a pas dit un mot là-dessus.
Il a parlé du pouvoir d'achat.
Sinon, politiquement, les projecteurs vont se braquer sur l'action de l'exécutif. Or, c'est le gouvernement qui est aux commandes. Et ça profite de toute façon à celui qui va revêtir son uniforme de chef de guerre sur le plan de cette gestion de l'épidémie, c'est-à-dire le président de la République.
Il a parlé du pouvoir d'achat, mais dans un discours à la Prévert, extrêmement... Il a parlé de cavalcade, il a raison, Gérard Carrérou, quand il le dit.
Très réduit sur les réformes à faire.
Il a parlé même des sacs plastiques, mais tout cela a été vraiment...
On a eu le droit au détail.
D'une brève, il dit en 2030, nous aurons un choix énergétique inédit, mais on n'en sait pas plus. Et il y a des trous dans la raquette, vous avez raison de le dire, Charles Villeneuve, sur les vaccins, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas grâce à l'Europe qu'on a eu les vaccins. Et il a parlé de l'euro comme quoi on avait eu une stabilité monétaire pour l'euro. Je demandais à n'importe quel économiste si cela est vrai. Ça, franchement, il faut quand même. C'est tout à fait difficile.
Mais il a fait un contre-pied sur pas mal de sujets, finalement. Il a fait un contre-pied par rapport à ce que pense l'opinion. Je suis d'accord avec Michel et Charles sur l'idée que l'Europe aujourd'hui n'est pas très à la mode, si j'ose dire, et que probablement s'il y avait n'importe quel type de vote disant vous êtes content de ce qui se passe avec l'Europe ou pas, il y aurait une majorité plus grande qu'en 2005 pour dire non à cette forme d'Europe, à cette forme d'Europe. Mais il a pris un contre-pied, par exemple, quand il y a quand même moi ce qui me frappe depuis quelques semaines, c'est les gens ont peur. les gens sont inquiets, les gens sont angoissés, beaucoup de gens sont malades.
À cause du Covid, oui.
À cause de la Covid. Oui. Et on a un président là qui, c'est sur ce sujet, qui est quand même... Aujourd'hui, c'est le sujet majeur. Hein, pour les fêtes de fin d'année, ça a été le sujet majeur. Est-ce qu'on se fait vacciner? On ne prend pas de risques en invitant la famille, etc. Et là, il se déclare optimiste en disant que l'année 2022, il ouvre un espoir, une espérance forte sur l'année 2022, alors que pour l'instant... Alors, on n'est pas médecin, donc on ne va pas vous donner des preuves, mais pour l'instant, on n'a pas la certitude du tout que l'année 2022 verra une année florissante Michel sur le plan de la maladie.
Je crois qu'effectivement, beaucoup de choses dépendent de la Covid. Si on a effectivement une pointe formidable en janvier et qui s'affaisse fin janvier,
c'est ce qui se profile,
Alors il profitera vraiment de son côté rassurant, bonne gestion de la crise sanitaire, etc., bonne vaccination. Si ça continue au-delà, moi, franchement, je ne suis sûr de rien. C'est-à-dire, si ça continue au-delà, ça pourrait ne pas être un atout pour lui. Donc, quand on dit il engrange, l'épidémie joue pour lui et tout ça, elle joue pour lui, mais il faut savoir quand elle s'arrête, quoi.
Oui d'accord, Michel, mais indéniablement, je pense que l'effet de la crise sanitaire est clairement un avantage pour le président de la République.
Moi, j'en suis moins sûr que toi, mais bon.
Oui, peut-être, moi, j'en suis pas sûr.
Oui, non, mais moi aussi.
C'est pour ça qu'il y a un débat.
Moi non plus.
Ça que c'est le débat des grandes voix.
Il est bien évident, mais je trouve que tout n'est pas aussi noir. Je me base pas sur les vœux du président de la République, pour le dire. Mais simplement, évidemment, quand on écoute notamment le patron des hôpitaux parisiens, Martin Hirsch...
Oui, qui dit que ça va tanguer, la semaine prochaine.
Dans des hôpitaux qui sont à bout de souffle, ce qui est parfaitement vrai, c'est vrai que ça va tanguer compte tenu de la vitesse sidérante de contamination de ce nouveau variant. Bon, mais pour le voir, pour l'assurer, pour être catégorique, enfin relativement catégorique, là, je me fie à un grand spécialiste comme le professeur Megarban, que j'écoutais hier soir, et qui disait qu'il faut attendre 3 semaines pour avoir une idée un peu plus précise. Donc, attendons 3 semaines. Mais ce qu'il y a de vrai, moi, j'observe beaucoup ce qui se passe dans un pays à l'avant-garde du traitement et à l'avant-garde des soins sur ce plan-là, qui a à peu près 3 mois d'avance sur le monde occidental et notamment sur l'Europe. C'est Israël.
Oui.
Que le Premier ministre prenne la décision de ne pas, si vous voulez, lancer la campagne d'injection de la quatrième dose, ça veut bien dire que peut-être ce variant est en train de faire le travail d'immunité collective que
l'on attendait.
Que l'on attendait, et c'est une hypothèse, plus qu'une hypothèse, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je dis et que je maintiens que je trouve que tout n'est pas aussi noir.
Une pause dans le débat des grandes voix et on revient dans un instant.
Les grandes voix d'Europe 1. 10h, 11h. Pierre de Villeneuve.
Avec autour de moi Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carreau pour cette nouvelle année. Et effectivement, je disais pendant la publicité, on en revient quand même toujours au Covid.
Mais le Covid, enfin, franchement, l'élection présidentielle va quand même se jouer très largement sur l'issue de la bataille du Covid,
absolument,
de la guerre contre le Covid.
Absolument.
Jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on l'a dit ici à plusieurs reprises, autour de cette table, on a dit, jusqu'à présent, la gestion, globalement, il y a eu des défauts, il y a eu des erreurs, mais globalement, la gestion a été plutôt bien rectifiée et favorable au président sortant, et favorable à Macron. Mais bien évidemment, s'il y avait quelque chose qui était une sorte d'aggravation, c'est pas du tout la même situation. Alors je sais bien aussi qu'il y a une petite musique. Alors, la petite musique qui est aujourd'hui celle que vous avez d'ailleurs entendue et que vous avez même dite à l'antenne, qui est de dire peut-être que grâce à la rapidité de propagation de cet Omicron ou Omicron, tellement rapide, du coup, on va atteindre cette fameuse immunité collective qu'on n'avait pas atteinte. Si c'est le cas, alors effectivement, je le dis d'avance, ça sera très bon pour Macron. Parce que la campagne... Regardez depuis quelques semaines...
Non, mais
regarde, je vais vous dire pourquoi ça sera très bon pour Macron. Depuis plusieurs semaines, on ne parlait plus en France, et ici comme ailleurs, que de l'immigration et de l'insécurité et du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de l'immigration plus depuis 2-3 semaines. On ne parle plus de la sécurité depuis 2-3 semaines.
Et, ça n'a
et
pas
le
été...
pouvoir d'achat, on en parle un peu, mais ce n'est pas l'énorme truc. Donc, je veux dire par là que si le focus se maintient sur la gestion de la Covid, et si cette gestion s'avère positive, eh bien, ça sera bon pour Macron.
Oui, ben c'est la raison pour laquelle, justement, si cette gestion est brève, si d'ici trois semaines, comme dit le professeur Mégarban, à ce moment-là, on rentre dans une nouvelle phase, justement, à cause ou grâce à cette vitesse de propagation, à ce moment-là, les thèmes auxquels tu viens de faire allusion, c'est-à-dire la sécurité, l'immigration, vont revenir dans le discours. Parce que, regarde la difficulté, Gérard, pour plusieurs candidats, de percer le mur de l'épidémie, comme tu le disais à l'instant d'ailleurs, et à se faire entendre. Au début de la crise épidémie, exemple, les écologistes nous avaient expliqué que la crise du Covid était aussi une crise écologique. Yannick Jadot n'a jamais réussi à le démontrer auprès de l'opinion. Jamais. C'est ce que j'appelle l'échec pour percer le mur de l'épidémie. Et si cette épidémie, évidemment, se ralentit et pratiquement n'est plus aussi incisive qu'elle l'a été, à ce moment-là, ces thèmes vont redevenir récurrents.
Et moi, j'ajoute que, alors c'est peut-être le passage à l'autre partie de l'émission, mais c'est vrai que le Covid divise l'opposition. On voit bien la différence entre une droite de gouvernement, qui est par exemple naturellement celle de Valérie Pécresse, qui, elle, accepte le pacte sanitaire, fait quelques réserves du côté des enfants et de la vaccination des enfants et surtout de la rentrée des classes. Mais on voit bien que c'est une droite de gouvernement qui ne dit pas n'importe quoi parce qu'elle s'apprête ou qu'elle voudrait s'apprêter à gouverner. Et on voit bien de l'autre côté, et Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui restent dans une opposition farouche, sans donner de perspective autre. Mais au fond, ça divise l'opposition entre opposition de gouvernement et opposition tout court.
Oui, mais parce que depuis 2 ans et demi, il n'y a pas en France de politique alternative sur le Covid à la politique suivie par le gouvernement. Malgré ces changements et ces oscillations, personne ne peut mieux faire. Personne ne peut dire il y a une politique de Madame Le Pen ou il y a une politique de Zemmour. Enfin, sur ce sujet-là,
on voit bien la différence sur les jauges, justement. On voit bien la différence de responsabilité quand même sur les jauges. On voit bien que Valérie Pécresse, elle dit moi, je respecterai les jauges parce qu'elle se dit si demain je réussis, va falloir que je fasse la même chose. Et puis on voit bien quand même ceux qui ne donne pas de propositions alternatives.
Vous avez en effet empiété sur l'autre partie de l'émission. Tant pis pour vous. Charles Villeneuve.
Oui, non, mais le seul candidat ou la seule candidate qui s'est positionnée bien avant la primaire sur une critique en règle de la gestion de l'épidémie, notamment au travers de son rôle d'élu local et d'élu régional, sur le système de décision d'Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Et évidemment, c'est très difficile de mettre en exergue cette politique qui a été assez incisive, d'ailleurs, au moment où elle l'a émise, parce que ce qui domine, indéniablement, c'est l'offensive du nouveau variant. Et d'ailleurs, l'un des éléments déterminants, c'est d'observer l'exécutif par rapport à tout ça. Il ne dévie pas de sa stratégie mise en place dès janvier dernier, c'est-à-dire dès janvier 2021, pour éviter les couvre-feux, les confinements, toutes les mesures de restriction, et simultanément à faire peser les contraintes sur les antivax. C'est le pari du pass sanitaire qui a payé et qui a été efficace.
Et il est reconnu, il critique même, le mot est trop fort de dire qu'il critiquait hier soir implicitement, mais il y a quand même, vous avez tous noté, une différence de ton à l'égard, par exemple, de ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Il n'y a pas, de la part du chef de l'État, cette sévérité, certains ont même parlé de dureté et ont critiqué le ministre Véran pour ça et Castex, le Premier ministre, pour ça. Chez le président de la République, il y a une sorte de, je dirais, il y a de la place dans la maison du bon Dieu, il y a de la place pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne seront pas vaccinés.
Parce que c'est la maison de la présidence de la République.
Mais parce que Gérard, le pass sanitaire et la vaccination sont devenus consensuels dans le pays.
Cela dit, alors, vous notez sur ce point-là exactement, vous aurez noté que le président a dit « il faut tout faire pour éviter de prendre des restrictions contraires aux libertés », mais juste après, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « les devoirs
avant les droits.
Oui, oui. Et c'est vraiment typiquement le en même temps macronien qui fait que,
C'est le en même temps de tout le monde. C'est vrai que tous les dirigeants ont intérêt, pensent que les droits des citoyens ne sont pas équivalents à leurs devoirs, que les devoirs priment.
Oui, bon, enfin, nous avons un président de la République quand même, et c'est peut-être une de ses spécificités depuis 2017. Est-ce que les autres présidents qui l'ont précédé arrivaient à dire tout et son contraire dans une seule et même phrase ?
C'est pas tout et son contraire.
Il dit d'abord tout faire pour éviter de prendre des restrictions contraires aux libertés. Il dit oui, mais devoirs passent avant les droits.
Ça veut dire qu'il fait confiance aux gens.
En gros,
je prends pas de restrictions. Et d'ailleurs, entre nous, quand on a vu tout le monde aux Champs-Élysées, on s'est dit qu'heureusement qu'il
n'avait pas pris. Vous étiez sur les Champs-Élysées hier, Michel ?
J'ai vu à la télévision, de loin, moi, de loin. Mais c'est pas du tout contradictoire de dire non, je ne prends pas de mesures coercitives parce que je pense que les citoyens ont des devoirs et par conséquent des responsabilités. C'est ça que ça veut dire. Moi, je vois pas du tout le contraire.
Et ce ne sont pas des mesures coercitives qui ont été prises là ? Parce que, je veux dire, le gouvernement en entier dit et assume que c'est que c'est une obligation vaccinale déguisée, ce qui est en train de se passer.
Oui, bien sûr.
Oui, mais Pierre, c'est assez consensuel.
Charles Villeneuve.
Moi, je pense qu'il reste deux inconnus. Et je suis sûr que ces deux inconnus génèrent du stress aussi bien à l'Élysée que à Matignon, c'est-à-dire au sein du gouvernement, au cœur du gouvernement. Le sujet le plus compliqué de la campagne électorale, de la campagne présidentielle, ce sera la situation de l'hôpital. Et ce sera un débat compliqué. Et d'ailleurs, il y a une bizarrerie dans le décernement de la liste assez longue des Légions d'honneur. C'est d'attribuer à Agnès Buzyn, alors qu'elle est mise en examen, justement par rapport à la gestion sur la Covid, une Légion d'honneur. Bon, c'est assez étonnant. Moi, je ne prends pas de jugement de fond.
Attendons la Cour de justice de la République.
Ce que dit Charles, c'est que c'est peut-être un problème de timing.
C'est pas une histoire de
lui attribuer ou pas.
D'ailleurs qu'au sein du conseil d'administration de la Légion d'honneur, vous avez deux magistrats. Et notamment le secrétaire général de la Légion d'honneur, c'est un parquetier, c'est un procureur. C'est assez étonnant. Bon, bref. Et puis, il reste une autre inconnue qui est beaucoup plus, délicate à traiter. C'est les conséquences du Covid sur le vote. Mais si ce vote est celui que nous avons pu observer, voir, au moment des régionales et même des municipales, il implique une abstention très importante. Et est-ce que cette abstention ne sera pas la même au niveau de la présidentielle ?
Mais Charles, c'est un complément qui fait, qui est tout à fait intéressant, de dire effectivement, et je reviens dans ma démonstration de tout à l'heure, si la Covid continue à monter en puissance à travers Omicron, le vote sera perturbé. D'abord, il n'y aura pas de campagne, pratiquement, de campagne. Personne ne fera du porte-à-porte, personne ne fera des meetings, parce qu'on parle des meetings.
Il y
en aura très peu.
5000 personnes en extérieur, 2000 en intérieur.
Donc, il n'y aura pas vraiment de campagne telle qu'on les a vécues précédemment. Nous qui en avons connu une petite dizaine. Donc, il n'y en aura pas. Et à partir de là, l'abstention, il n'y a pas de raison objective pour que l'abstention disparaisse alors que l'abstention n'a cessé de monter. Exact. Et que les raisons objectives qui ont fait que les gens se sont détournés de la politique joueront aussi cette fois. Mais, j'ajoute, dernière considération, ça joue toujours quand même, regardez ce qui s'est passé au Conseil, aux dernières élections régionales, ça joue en faveur des sortants. Et comme le président Macron est sortant, ça peut jouer aussi en faveur du sortant.
Ce que je trouve assez extraordinaire, en vous écoutant depuis tout à l'heure, c'est que c'est un peu comme la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que le président sortant se retrouve dans le rôle de celui qui doit assumer que dans un monde idéal, le Covid disparaisse. Alors que bah, c'est comme la pluie et le beau temps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas appuyer sur un bouton en disant il pleut, non, ou il fait froid, ou dit... il fait soleil.
Ceci étant, on a toujours Michel dit qu'on a même tous employé l'expression Macron croyait qu'il était le maître des horloges. Et bien, le maître des horloges, c'est le virus. Mm. On l'a toujours dit, c'est à la fois le maître des horloges, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe le lendemain. Par conséquent, quand on entend... même Valérie Pécresse dit, il dirige ça au jour le jour. Ah ben oui, mais je voudrais bien savoir comment on peut diriger ça autrement qu'au jour le jour.
Mais c'est vrai, tu as raison. Mais le virus, il est comme l'homme. Ouais, il est changeant et ondoyant.
Et intelligent, en plus. On a faire face à un virus intelligent, ce qui est embêtant quand même. Enfin, je veux dire, de toute façon,
plus il mute, plus il s'atténue.
Quoi qu'il se passe, que ça lui profite ou pas électoralement, j'en sais rien. En attendant, les deux dernières années ont été de quinquennat, ont été quand même uniquement placés sous cet aspect-là, à l'exception de la sortie et de Éric Zemmour et tout ça sur l'immigration. Enfin, ça a été exclusivement, les deux dernières années ont été quand même assez anéantis et bloqués autour de ce virus. Et ça, franchement, pour un bilan, c'est quand même un bilan réducteur.
Oui, mais c'est aussi qu'un président est rarement réélu sur son bilan. C'est pour ça qu'il y en a qui se sont étonnés hier de le voir tellement disert et long sur son bilan. Alors que, effectivement, en principe, c'est un principe républicain un peu traditionnel, que les gens sont plutôt élus sur ce qu'ils proposent, c'est-à-dire leur programme, là où ils se projettent,
toutes les élections que sur leur bilan.
Le dernier discours de Sarkozy, le dernier discours de Nicolas Sarkozy était bâti sur cette même forme, c'est-à-dire voilà ce que j'ai fait, avec une grosse partie de bilan, et voilà ce que je ferai. C'est exactement la même construction.
Enfin là, il a quand même projeté sur le plan d'industrialisation, le plan 2030, la transition énergétique, sur
Nicolas
la présidence.
Nicolas Sarkozy aussi s'était projeté au-delà.
Oui. Charles Villeneuve.
J'ai rien à ajouter à ce que viennent de dire Michel et Gérard.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une pause et on revient juste après dans le débat des grandes voix.
C'est une bonne initiative.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
De retour sur le premier plateau des grandes voix 2022 avec Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Et les autres alors, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron qui a présenté ses vœux à l'Élysée hier. Et les autres, eh bien les autres candidats à la présidentielle ont pris la parole à travers des petites vidéos en ce 31 décembre. Éric Zemmour souhaitant un bon débarras sans Emmanuel Macron, idem pour Jean-Luc Mélenchon. Pour sa rivale Marine Le Pen, c'est au peuple de choisir, au peuple de se soulever. C'est ainsi que fait le peuple, François Attal. Valérie Pécresse propose de vraies solutions, mais sans entrer dans le détail. C'est dommage, on aurait voulu avoir un semblant de programme en 3 points, 3 sous-points. À gauche, Anne Hidalgo se fait le chantre de la réconciliation et Yannick Jadot recentre sur l'écologie, même si son message prend beaucoup les aspects de la chanson de Dutronc, et moi, et moi, et moi. Alors commençons par la droite. Pécresse, ok, mais Pécresse, ça ne marche pas sans Ciotti, Charles Villeneuve.
Oui, absolument. Mais d'abord, Pécresse, c'est perturbe indéniablement, je trouve, le scénario souhaité par Emmanuel Macron, c'est-à-dire rejouer le match de 2017 face à Marine Le Pen. Actuellement, le pari Pécresse est, pour, si vous voulez, je dirais, son principal collaborateur dans cette campagne, c'est-à-dire Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, vainqueur de la première manche des primaires de droite, qui occupe une place singulière dans le duo. Et pour l'instant, pour ma part, je trouve que c'est un pari réussi. Vous avez vu que Harris, d'ailleurs, le sondage, le montre progressant de 4 points chez les Républicains, de 5 points chez les électeurs de chez Zemmour, et maintenant sa position au Rassemblement national. Et donc il va compter, il va peser lourd, justement, dans cette campagne auprès de Pécresse. Mmh. Et je crois que la place qui lui est faite, d'après ce que je sais, est une place importante.
Mmh. Je trouve qu'elle gère très bien, on passera...
Qui ? Valérie Pécresse.
Valérie Pécresse gère très bien le phénomène Ciotti. Parce qu'elle l'amène... parce qu'il est question de sécurité dans des commissariats. Elle l'utilise assez bien. C'est-à-dire qu'elle le maintient dans ses cordes, dans son secteur, tout en faisant son plus proche accompagnateur, puisqu'il est le plus souvent avec lui.
Mais du coup, elle le cantonne à la sécurité.
Oui, Non, sans que ça soit.
Enfin, je ne crois pas, ce sera l'une des originalités.
Pardon, voilà. Non, elle,
Michel Cotta.
Elle l'utilise comme ça, et en même temps, ça marche. Il n'y a pas entre eux de divergence, comme si, quelque part, Éric Ciotti avait compris que son rôle était quand même de rassurer sur la sécurité. Et je crois que c'est ce qu'il dit, et j'en suis même sûr, sans avoir la moindre rivalité. Oui.
Parce enfin, ailleurs, c'est pas ce qu'il m'a dit hier soir.
Ailleurs, on trouverait moi, c'est pas ce qu'il m'a dit avant-hier.
Charles Villeneuve.
Non, non, mais elle l'utilise, ce que je vous dis, elle l'utilise très bien, sans accroc, sans jusqu'à présent.
C'est plus difficile que tu ne le crois d'utiliser Éric Ciotti.
Non, je veux dire, le mot utilisé, pardon, alors n'est pas le
c'est
bon.
C'est pas une marionnette.
Non, c'est pas une marionnette.
Non, non, mais le mot utilisé n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'elle le met sur son secteur et qu'elle s'en sert. Tout en lui reconnaissant, tout en lui reconnaissant.
Est-ce que je peux intervenir dans votre discussion
qualités. Oui, mais tu sais, tu interviens pas mal.
Nous sommes des méridionaux, par conséquent, les Alpes-Maritimes nous concernent.
Non, alors, Pécresse pour gagner, puisque c'était le point de départ, dans l'idée que si elle se présente pour gagner, elle a gagné la bataille de l'investiture. Elle a gagné et elle a plutôt fait un bon début. Les sondages l'ont montré, l'ont ratifié. Bon. Mais pour gagner, c'est-à-dire être au deuxième tour et éventuellement être... elle a besoin, mais c'est totalement nécessaire, elle a besoin de deux hommes. Ciotti, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, je le partage, je pense simplement que Ciotti, dans le pacte qu'il a négocié avec elle, a probablement eu des exigences qui allaient au-delà de « je serai celui qui vous guidera pour les problèmes de sécurité ». Ciotti est un homme qui a plus d'envergure que ça, et il en demandera plus, il a probablement obtenu plus.
Et il l'a démontré, Gérard, de te couper, quand il a été le rapporteur de la commission d'enquête sur la pandémie. Où il a obtenu une unanimité de tous les députés membres de la commission d'enquête.
Donc il aura plus d'importance qu'on ne le croyait au départ. Et Ciotti, c'est la caution, comme on demande une caution, la caution de la droite dure, de la droite assumée pour la candidature Pécresse. Mais n'oublions pas, il y a un autre homme dont, alors celui-là, c'est Ciotti, c'était évident. Oui. On est tous d'accord, c'est évident.
Bon, l'autre homme,
c'est Zemmour. Parce que c'est extrêmement simple. Madame Pécresse a besoin de faire un premier tour autour de 18-20% pour être assurée de la qualification au deuxième tour. Et elle ne peut pas le faire si la droite, ce qu'on appelait autrefois le Front National ou l'extrême droite, si cette droite-là se reconstitue derrière Marine Le Pen. C'est-à-dire, imaginons que Zemmour n'ait pas ses parrainages. Zemmour se retire, et à ce moment-là, cette droite qui s'était mobilisée sur Zemmour, 12, 13, 14%, se retourne vers Le Pen. Et Le Pen repasse devant Pécresse. Elle a besoin de Zemmour, et vous verrez que parmi les gens qui soutiendront Zemmour, il y aura des gens qui, effectivement, étaient des gens du Parti Républicain qui font la même analyse que moi.
Je rejoins notre discussion avec Charles sur Ciotti. Il est évident qu'Éric Ciotti, pour ça, est l'homme idéal. C'est-à-dire qu'il rassure absolument les partisans et de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour sur le côté sécuritaire. Donc c'est très important, c'est une carte très importante, mais je pense que c'est quelqu'un qui volontairement ne se livrera pas à une concurrence quelle qu'elle soit, avec Valérie Pécresse.
Mais ce qui rassure les électeurs de la droite modérée.
Oui, non, mais pour autant, pour ça, par rapport à la démonstration, à la remarque de Michel Cotta et à la démonstration de Gérard Carrérou, faut-il qu'il ait les 500 parrainages d'ici la fin du mois de février.
Bien sûr.
À l'heure actuelle, il ne les a pas. Et donc, il ne les a pas. C'est pas une hypothèse de ma part, c'est une information. Il ne les a pas.
Bon. Donc il y a 235, c'est ça
305.
Et pour les avoir, évidemment, il faut qu'un certain nombre de maires, c'est ce qu'a empêché François Hollande, d'ailleurs, lorsqu'il a fait intégrer le fait de publier les noms des maires qui pouvaient appuyer un partisan autre, de toute façon, un candidat autre que issu de son propre parti, et il ne les a pas. Donc, et faut-il qu'il les ait? Et il les aura, je pense. Ça aussi, c'est une autre information.
Comment ?
Ah ben, parce qu'un certain nombre de maires, qui font partie notamment des Républicains, apporteront les parrainages à Zemmour.
Ne
parce
que pour
séparer
est
les essentiel voies. Pour faire baisser le seuil de qualification au deuxième tour.
voilà, c'est évident, alors que naturellement, on attendra, personne ne dira à LR, ah, on demande à des maires de donner sa signature, leur signature pour Zemmour, mais leur intérêt est évidemment là, c'est-à-dire partager les voix de l'extrême droite et permettre à Valérie Pécresse d'arriver justement sur le 19-20, alors que les deux autres seront autour de 14-15.
J'ajoute que ça serait un déni de démocratie que de refuser un homme, un candidat qui est autour, dans les sondages, entre 13 et 15%, qui ne puisse pas se présenter à l'élection, ça serait véritablement un déni d'égalité démocratique.
Oui, si on entend Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen avant elle, dire sans arrêt, les signatures, je ne les ai pas, puis ils les avaient au dernier moment.
Je voudrais faire une remarque sur l'utilisation du terme d'extrême droite.
Oui.
D'abord, l'électorat de Zemmour et l'électorat de Marine Le Pen sont dissemblables. La gauche devrait réfléchir, notamment par rapport à l'électorat de Marine Le Pen, qui est un électorat populaire, qui est un électorat qui vient presque exclusivement de la gauche. Il ne faut pas l'oublier, ça. Elle a perdu cet électorat-là, la gauche. Il est chez Marine
chez
Le Pen.
Chez Marine Le Pen.
Bon, alors... Et
un peu chez Jean-Luc Mélenchon.
Et c'est chez Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai. Mais moins qu'on ne le croit. Moins qu'on ne le pense, pardon. Et donc, partant de là, c'est la raison pour laquelle je m'élève contre l'attribution systématique de l'extrême droite, etc. Par exemple, chez Zemmour, vous avez beaucoup de cadres, vous avez beaucoup de gens, des seniors, notamment, qui obligatoirement ne caressent pas que des idées d'extrême droite, fascistes ou issues
Il y en a quelques-uns, pas des cadres.
Mais ça, c'est la gauche. Ça, c'est typiquement une remarque de gauche qui donne des leçons de morale en permanence.
Pour déprécier un candidat, il suffit de dire « Ah, mais il a des tendances d'extrême droite ». Et ça, c'est le tintouin que fait la gauche depuis des années pour déprécier les candidats.
Si on disait qu'il a des tendances de gauche, ça étonnerait quand même.
Je pense qu'effectivement, s'il y a un électorat qui vient de la gauche, n'est pas un électorat d'extrême droite.
Sur Marine Le Pen,
il y a peut-être des gens d'extrême droite, mais l'électorat global, quand on a 15%, vous savez, quand on a 15%, ça représente des millions d'électeurs, et il n'y a pas 15% d'extrême droite au sens classique du terme dans la France contemporaine.
Et quand Charles dit « la gauche devrait réfléchir », j'imagine que ce n'est pas que la classe politique de gauche, c'est la gauche en général, vous parlez de tous les électeurs de gauche.
C'est un mouvement qui a commencé depuis longtemps.
De quoi donc ?
Le départ des travailleurs de la classe laborieuse vers Marine Le Pen est une tendance qui a commencé il y a très longtemps et que les socialistes n'ont pas vu venir. Et c'est sans doute ça qui explique aujourd'hui, évidemment, leur pauvreté dans le débat.
Alors, dernier sondage, et vous l'avez cité, Harris Interactive, pour les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez Mélenchon à 11, Hidalgo à 4, Jadot à 7, Macron à 24. Alors ça, c'est une stabilité, ça fait 6 mois qu'il est à 24, 25, voilà. Valérie Pécresse, 17, Marine Le Pen, 16, et Éric Zemmour, 15. Voilà donc, alors, effectivement, on a parler de la droite avec Pécresse et Ciotti qui sont un duo, qui doit composer ensemble. À gauche, Michel Cotta, on a effectivement Yannick Jadot, mais il y a en embuscade évidemment Sandrine Rousseau.
Alors, je dois dire que la situation, on ne va pas s'étendre sur une situation qui est absolument maintenant aberrante. C'est-à-dire que dans chacun, il y a déjà des composantes de la gauche, donc il y a au moins 5 candidats de la gauche.
Hidalgo, on parle. Taubira, Jadot.
Justement, on va parler de Taubira, qui n'est pas encore candidat, mais de toute façon, voit très bien que la campagne de Jadot patine. Et pourquoi elle patine ? Elle patine pour deux raisons. La première, c'est effectivement à côté de lui, quelqu'un à qui il a donné d'ailleurs des moyens importants dans son dispositif, qui n'arrête pas d'enrayer le parcours de Jadot. Sandrine...
Mais il faut la citer, voilà.
Voilà, qui n'arrête pas de dire...
Sandrine Rousseau.
Sandrine Rousseau qui n'arrête pas de dire oui, finalement, on pourrait envisager maintenant des primaires de la gauche, qui est incroyable, alors que Jadot est parti en campagne depuis longtemps. Bon, ça, c'est vraiment un gros, gros caillou dans sa chaussure. Le deuxième, mais c'est injuste, mais c'est vrai, c'est Hulot. Le cas Hulot a beaucoup déstabilisé, à un moment donné, Yves Jadot. Donc déjà,
Yannick Jadot.
C'est une campagne. Yannick Jadot, c'est déjà une campagne.
C'est Yves Cochet, Yannick Jadot.
C'est une campagne qui partait pas mal, et on sent plutôt que la campagne écolo est plutôt en retrait maintenant.
Il y a deux candidats de la gauche, il y en a 7 actuellement, il y en a 2 qui sont menacés d'avoir à se retirer.
Oui, c'est vrai, il y a aussi Philippe Poutou, Fabien Roussel, Nathalie Arthaud.
Mais les deux qui sont vulnérables actuellement sont effectivement Jadot, pour les raisons que tu as décrites très exactement, j'en rajoute pas, et l'autre qui est, c'est évidemment Madame Hidalgo. Elle est à 3 ou 4 selon les sondages. Et je crois qu'elle n'a jamais dépassé pratiquement 4.
Elle est à 4, oui.
Depuis maintenant quelques semaines.
Elle était à 5 à un moment.
Oui, elle a été au début, donc ouais, elle a perdu un point. Mais je pense, alors là, je vais faire part d'une conviction qui sera peut-être démentie par les événements, c'est tout à fait possible. Je pense que Mme Taubira, quand il y aura la vague de sondages, la prochaine, enfin celle qui interviendra dans les 8-10 jours,
des grands instituts. Elle est avant Jadot.
Mme Taubira sera devant Madame Hidalgo est devant Monsieur Jadot. Et ça réglera le problème, probablement, ça peut régler le problème de candidats qui, parce que franchement, des candidats, il y a une espérance. La gauche a toujours, l'idée de l'union de la gauche, le peuple de gauche, se rassembler au deuxième tour, etc., ça a toujours été une motivation très forte.
C'est ce qui conforte ton hypothèse, Taubira.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une pression de la base très, très
forte. Voilà, elle a toujours été forte. Même à l'époque des communistes, souvenez-vous, il y avait dans la base socialiste des tas de gens qui disaient « mais il faut quand même voter pour le candidat communiste, il faut faire l'union de la gauche ». C'est un mythe très profond, très ancré dans les cœurs de gauche.
Mais c'est quoi le...
Il jouera pour Mme Taubira.
Mais pourquoi ?
Parce que Mme Taubira permettra de sortir justement de ce piège-là avec des candidats qui, de toute façon, sont plus ou moins rejetés, puisque quand on est à 3% dans une présidentielle, on sait bien qu'on on a plus aucune chance. Donc, c'est une issue. C'est un baroud d'honneur qui permet de dire on a sauvé l'honneur. S'il y avait Taubira candidate et qu'elle fasse 10 points ou 12 points au premier tour de la présidentielle, la gauche estimerait qu'elle a sauvé l'honneur.
Je vous rappelle quand même qu'elle a fait 3%, à ses propres élections en 2002.
Non, mais pour l'instant,
moins,
Gérard...
Moins, je crois.
Mais...
Moins, 2,30.
Oui, c'est une autre époque.
Non, mais pour l'instant, Gérard, la candidature, donc Taubira, amène plus de confusion que de clarification.
Voilà,
dans
voilà.
Un premier temps.
Voilà. Oui. Mais oui, alors, parce que ça semble être une candidature de plus, plutôt qu'une candidature de substitution, pour l'instant en tout cas. Ce qui me semble quand même difficile, même s'il reste 3 mois... d'ici l'élection, le premier tour du 10 avril, c'est de concocter, d'abord, d'essayer de déclencher une dynamique, puisqu'on sait très bien que l'élection présidentielle, c'est d'abord une dynamique, et puis un programme commun, aussi.
Oui. Ils diront qu'ils n'ont pas le temps de le faire en 3 mois.
Justement,
à gauche, ils ne sont pas prêts sur le plan de la procédure, et ni prêts sur le plan du programme. Et ça me semble quand même extrêmement difficile.
L'argument majeur de Christine Taubira, c'est de dire il y a des points de convergence qui sont plus importants que les points de divergence. C'est comme dans le temps,
non,
ça rappelle...
Ça. Oui.
Donc, elle, dans sa tribune, la tribune qu'elle a donnée au monde, dans ce style comme ça, extraordinairement...
Très lyrique.
Romantique, fleurie.
Ça relève plus d'une chronique littéraire, d'ailleurs, que d'une tribune.
On a toujours dit qu'elle était très littéraire.
Voilà, et je trouve que, oui, mais du coup, ça, je trouve que ça restreint un peu son influence sur la gauche. Quand on, oui, c'est un. Pour le moment, c'est quelqu'un qui.
Oui, mais elle a un côté Zemmour de gauche.
Oula!
Elle a un côté Zemmour.
Mais pourquoi
elle a un côté...
Mais ça veut dire quoi,
parce
ça
que, ce non, que ça, je veux dire, c'est que c'est des gens... On a parlé de la radicalité. Ouais. On avait parlé de la radicalité pour Sandrine Rousseau, qui a quand même fait 49% à la primaire écologiste.
Vous dites ça parce que c'est une radicale de gauche, à la base
elle est... Non, pas parce qu'elle était radicale de gauche, mais parce qu'elle est sur un certain nombre d'options qui sont proches, par exemple, des options woke, ou proches d'un certain nombre d'options de la gauche extrême. Elle a plus, effectivement... de cohérence sur ce plan que d'autres candidats. Voilà, c'est pour ça que je dis ça.
C'est vrai que quand même, la résurgence de Christine Taubira, alors que depuis 5 ans, on n'entend plus parler d'elle, qu'elle a rompu finalement avec François Hollande, quoi que dise Hollande dans son livre, d'ailleurs en réalité il y avait eu une vraie rupture, c'est quelqu'un finalement à qui peu de gens ont pu faire confiance, mais c'est une figure. C'est une figure, mais je ne suis pas sûr que c'est une figure politique.
Pour terminer l'échiquier politique, il reste Marine Le Pen, Et Jean-Luc Mélenchon, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils en sont tous les deux?
Ils rament tous les deux. Mélenchon rame pour être toujours en tête des candidats de la gauche.
Pour l'instant, il l'est toujours.
Hein, il est à 11.
Il fait Jadot et Hidalgo en même temps.
Il est devant.
Et quel est l'autre que vous avez
cité? Je disais, Hidalgo, ça fait 4 plus Jadot, 7. Ça fait 11. Et c'est le score de Mélenchon.
C'est bien pour ça qu'à partir de maintenant, aucune redistribution des cartes de la gauche ne peut s'envisager sans, évidemment, Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchon, il ne veut pas tendre la main.
Justement, quand Christine Taubira a dit « Ah, il faut le jury des 250 000 ou des 300 000 citoyens qui est autoproclamé, hein, c'est un jury autoproclamé. » Il n'a même pas levé le sourcil, Jean-Luc Mélenchon. Il sait qu'il restera.
C'est pas du tout dans son intérêt.
Il n'y a qu'un seul candidat.
Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas dans son intérêt.
Ben justement, bien sûr. Il n'a même pas levé le sourcil. C'est-à-dire qu'il a mis cette proposition par profit et perte immédiatement.
Par conséquent, à partir du moment où il est à ce stade-là,
et installé comme il est dans un courant politique, on n'enlèvera pas Jean-Luc Mélenchon comme ça. Hein.
Qui n'est pas de gauche d'ailleurs, puisqu'il le dit lui-même.
Alors il n'y a qu'un seul candidat sur lequel on ne s'interroge pas. D'ailleurs, c'est vrai dans tous les débats. C'est quelle sera la trame de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron?
On en a beaucoup parlé au début. Non, la trame, pas sur la trame.
Je suis intimement persuadé qu'elle sera beaucoup plus à droite, beaucoup plus régalienne qu'on ne l'imagine et qu'on ne le dit
mais
à l'heure actuelle.
Vous aurez remarqué qu'il n'y avait pas un mot sur la sécurité dans les vœux d'hier.
Christine, elle s'appelle Christiane. Alors, puisque vous revenez à Macron à travers
sinon,
cette candidature,
ce qui
m'a frappé, c'est que moi, il me semble, mais c'est un sentiment tout à fait personnel, je pense que quelqu'un d'autre peut le partager, c'est de dire qu'il n'y ait pas dans un programme, dans une perspective présidentielle, c'est vrai aussi pour la droite, rien de vraiment structuré sur la réforme de l'hôpital, qui devrait être la réforme fondamentale.
C'est un sujet. Est-ce que quelqu'un a la clé? Ce sera le sujet. Mais il y a des clés.
Le gouvernement nous dit il y a eu un Ségur. Voilà.
Mais tout le monde dit que c'est un fiasco, le Ségur. Mais Gérard a raison de revenir sur cette question.
Parce que ce sera la question la plus compliquée de ce débat présidentiel.
Oui, d'autant que tout le monde est responsable.
La vie s'allonge, les gens sont de plus en plus malades, il y a des épidémies, et il y a toujours le même nombre de places dans les nids de réanimation. Depuis 3 ans, on n'a pas créé un.
Macron a vraiment hérité là-dessus, a hérité d'un système qui date depuis 20 ans.
Oui.
Et après tout, on ne l'a pas dit, mais vous vous rappelez que la réforme de l'hôpital, c'est la réforme Bertrand, il y a des années. Bon, on est absolument sur un... C'est l'ensemble de la classe politique qui doit s'interroger sur l'hôpital.
Parce qu'ils ont choisi, la classe politique a choisi, non pas ceux qui font, ceux qui créent, mais ceux qui comptent. C'est les comptables. On a donné la préférence aux comptables
dans les
hôpitaux.
Vous vous rappelez quand même, à l'époque où justement ça a été fait, on disait tous, oui mais alors... Les actes médicaux sont multipliés par 10, il y a des actes inutiles, il faut qu'il y ait des gens qui calculent. Bon, on était absolument d'accord, pas au point où tous les hôpitaux, même les services, sont dirigés par des comptables.
Ce n'est pas seulement dans le seul secteur de l'hôpital.
Gérard Carrérou, vous avez dit Jean-Luc Mélenchon irame, idem pour Marine Le Pen.
Elle rame plutôt bien, Marine Le Pen, parce qu'à un moment donné, on pouvait penser qu'il y aurait un grignotage de sa candidature et qu'elle pourrait descendre à son tour en dessous de 15.
Oui.
Et elle a fait un coup de rein, si j'ose dire, et elle est remontée. Et elle est remontée et elle s'y tient apparemment. Elle est toujours
dans un mouchoir de poche, quoi.
Et à touche-touche avec Zemmour.
15 et 16.
Je trouve qu'elle a bien ramé. Oui.
D'où l'importance, d'ailleurs, pour Pécresse, de la position singulière d'Éric Ciotti par rapport à Marine Le Pen.
Oui, mais alors, vous amorcez une hypothèse de passerelle, et alors, ça, c'est la bête noire de toutes les. Oui, mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Non, mais je veux dire par là, de toute façon, que l'aile dure de la droite ne peut pas être négligé dans ce match.
Pourquoi? Pour aller prendre des électeurs de Marine Le Pen, c'est ce que vous dites.
On voit bien que le débat se situera entre droite modérée et droite plus dure. On voit bien, c'est parce que assez rapidement, tout en essayant de garder ses électeurs de gauche, parce que je vous rappelle quand même qu'il a beaucoup d'électeurs, Macron avait beaucoup d'électeurs de gauche en 2017. Il faut vraiment voir que maintenant, il est obligé d'aborder les problèmes régaliens et les problèmes de sécurité, et qu'effectivement, comme dit Charles, il les abordera. Donc il y aura un débat avec une gauche qui est complètement divisée, et puis une droite plus modérée qu'incarnera Macron, et une droite plus dure qu'incarnera sans doute Valérie Pécresse. Je ne dis pas.
Mais il y a encore un tiers des électeurs de gauche, dans les études qui ont été faites, que j'ai lues, un tiers des électeurs de gauche qui sont déjà pratiquement prêts à voter Macron au deuxième tour.
Exact.
C'est pas rien, un tiers. Même si c'est un tiers d'un total qui a baissé beaucoup, puisqu'on est autour de 24% maintenant. S'il y en a un tiers, ça fait 8%.
Non, parce que la dimension sociale va compter aussi. Et il y a une demande de sociale. Seulement, de toute façon, dans l'électorat de gauche.
Merci beaucoup. Les Grandes Voix, on se retrouve évidemment avec beaucoup de plaisir samedi prochain en compagnie de Catherine Ney, à qui on souhaite un bon anniversaire aujourd'hui, en plus d'une belle année. Merci Charles, merci Michel, et merci à vous Gérard. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous à table, bien sûr, avec Laurent Mariotte. Très bonne matinée à tous.